Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
On va essayer de faire un petit débat entre Marina, qui est évidemment pour le port du masque, mais surtout en colère contre ceux qui ne le portent pas, et avec Frédéric, qui habite Rennes, qui est contre le masque. Alors d'abord Marina, que je salue de nouveau, qui habite... où habitez-vous d'ailleurs, Marina ?
J'habite Cousignan, à côté de Lyon.
À côté de Lyon. Bon, qu'est-ce qui vous met en colère dans les anti-masques, si j'ose dire ?
Après, du moment qu'on est adulte, on prend ses responsabilités. Mais moi, ce qui me met en colère, c'est cette forme d'indiscipline, de défiance et d'inconscience. Tout simplement parce que malgré la période de confinement, malgré tous les mois qu'on vient de vivre, on n'a pas encore une grande connaissance de ce virus. Et je vois pas en quoi ça peut poser problème de porter un bout de tissu ou un bout de papier un peu épais devant le visage au quotidien pour se prémunir, protéger les siens et protéger toutes les personnes qu'on peut croiser dans une journée. Voilà, tout simplement.
Alors Frédéric est là. Bonjour Frédéric.
Puis merci d'avoir pris de m'avoir sélectionné et puis félicitations pour vos émissions parce que je vous vois plus à la télé que à la radio autrement. Et depuis quelque temps, je trouve que même vous mettez en doute certaines choses, ça me fait plaisir.
Bah je mets pas en doute, enfin, je mets en doute rien du tout, mais j'essaye
d'être objectif.
Bah voilà, objectif, c'est une tarte à la crème parce que personne ne l'est vraiment. Mais en revanche, j'essaye d'être circonspect, voilà, sur ce qu'on nous dit. Bon, pourquoi vous êtes contre le masque ?
Bah moi, c'est depuis le début, en fait, c'est depuis tout le début.
Ah, malheureusement, on ne vous entend pas très bien, Frédéric. On va essayer de sécuriser la liaison. En attendant, on va sécuriser la liaison parce qu'elle n'est pas bonne. En revanche, Vincent est là également. Vincent, toujours sur cet aspect des anti-masques. Qu'est-ce qui vous met en colère ? Bonjour, Vincent.
Oui, bonjour, Pascal. Bah, déjà, bon anniversaire.
Ouais, vous êtes gentil, Vincent.
Et non, je ne suis pas en colère, mais ça me fait rire. Parce qu'en plus, je viens de découvrir, il n'y a même pas 20 minutes pendant le journal... Ça me met en colère, c'est que déjà, il y a un groupe de petits indépendantistes rebelles qui disent « je ne veux pas le masque ». Et un médecin qui est interviewé sur une grande radio généraliste et qui dit « en effet, on a manqué de pédagogie, peut-être on s'est mal exprimé, mais je vais vous dire que c'est peut-être mieux le tissu que le papier ». Alors maintenant, il va y avoir deux groupes indépendantistes, je suis pro masque pour tissu, et je suis pro masque en papier.
Bah, l'important, c'est de le porter quand même, le masque. Il y a un consensus pour dire que le masque permet... Vous êtes infirmier, vous-même.
Ah, mais dans deux mois, vous allez avoir les pros et les anti-vaccins, hein. Vous inquiétez pas.
Non, mais ça, c'est autre chose. Mais il y a un consensus pour dire que le masque sert à quelque chose, notamment en milieu clos.
C'est pour ça qu'ils me font rire. Qu'est-ce que c'est, cette histoire d'un angétouffe dans le masque ? Je suis diplômé depuis 15 ans. À l'hôpital, on l'a tous. On a tous vécu avec. Franchement, je ne connais pas d'infirmier, de médecin qui soit mort à cause d'un masque ou qui soit mort d'asphyxie.
Non, mais ce qui est agaçant, c'est ce qu'a dit.
C'est que c'est là où ça a été mal exprimé. Et c'est un peu ça aussi. J'en ai marre de voir, et je ne vais pas vous mentir, il y a beaucoup de mes collègues et même beaucoup de médecins et pharmaciens, on en a marre de voir que, soi-disant, oui, ça manque vraiment de pédagogie. Et personne n'a vraiment expliqué à quoi ça sert. Clairement et nettement. Il faut le mettre. Ce virus, médicalement parlant, il est génial. Il est formidable. Il est tout nouveau, il est tout beau. Mais justement, il est tout nouveau, tout beau. Personne ne le connaît. Donc, en attendant, avant d'affirmer des choses, on ne le connaît pas, tu joues le jeu. Tu te laves les mains, tu mets un masque et on étudie vraiment ce virus à fond. Il est tout neuf. Et franchement, ce n'est pas le virus de la gastro, il est mondial. On en est à je ne sais plus combien de morts et maintenant... On est en train de savoir que, en effet, dans les hôpitaux, alors, ceux qui sont sur un lit de médecine, tant mieux, mais maintenant, j'entends là tout à l'heure, Marseille réouvre des lits de réa. Au bout d'un moment, il va falloir être logique. On ne sait pas comment fonctionne vraiment ce virus et on ne sait même, il n'a même pas. Là,
on ne sait pas, mais on a quand même, on sait par exemple qu'il n'y a qu'un chiffre qui est vraiment primordial, c'est le nombre de décès, par exemple.
Et
on
ça, sait. C'est malheureux pour les familles, c'est malheureux pour tout le
oui,
monde.
Oui, mais ça, il y en a peu.
Alors, limitons la casse. On met un masque.
Non, mais hier, il y a eu 39 décès. Vous voyez, quand Comte Sponville dit « ne soyons pas trop anxiogènes », il y a eu 39 décès. Alors évidemment, c'est affreux, c'est abominable, c'est tout ce que
vous voulez, mais c'est
39 décès, on est 70 millions. Bon, donc il faut aussi relativiser. Et ça, c'est un chiffre qui est important.
Alors, Alors pourquoi ? Alors je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que justement, nous, c'est pas physiquement, hein, dans les soignants, je dis S majuscule, hein, les soignants, j'englobe tout le monde, hein, ça va de l'ASH au médecin. Ce côté anxiogène est trop, parce que nous, c'est pas physiquement qu'on est fatigué, c'est moralement, on n'en peut plus. Parce que c'est toute la journée à la télé, on se lève le matin, admettons, j'écoute RTL, je me lève le matin... Putain, qu'est-ce qu'ils vont encore nous sortir ? Qu'est-ce qu'ils vont encore être pondus dans les médias, dans les infos, ou même par le gouvernement, les politiques, ou une panoplie de médecins qui fait les plateaux télé en plateau télé ? Qu'est-ce qu'ils vont encore nous pondre ? Et moi, j'ai des patients qui regardent la radio, qui écoutent la radio, qui regardent la télé, et tous les jours, on a des nouvelles questions. C'est ça qui nous gonfle et qui nous fatigue.
Bon, on va marquer une page de publicité, Vincent, si vous le voulez bien. Ce qui est vrai aujourd'hui, par exemple, c'est que l'Académie de médecine a expliqué qu'on pouvait laver son masque à 30 degrés. Avant, c'était 60 degrés, mais on a le droit de le laver à 30 degrés. Puis elle est très précise, l'Académie de médecine. Elle dit, vous pouvez, les masques peuvent être lavés à la main ou en machine avec un détergent, comme le linge de corps. La température à 30 degrés. Donc ça, c'est bien. Bonjour Greg Caranet.
Bonjour Pascal, vous lavez vos chemises à quelle température?
Et, j'allais vous dire, je ne lave pas mes chemises, mais bon, je ne les porte pas en même temps. J'ai décidé de les porter sans les laver, c'est ça que vous voulez dire?
Oui, non.
Non, ça c'est... Eh bien, moi, je connais ça. 30 degrés, figurez-vous. C'est moi qui fais mes machines. Tout seul, ne me prenez pas là-dessus. Parce que je sais faire fonctionner la machine.
Non, exceptionnellement, je serai adorable avec vous aujourd'hui. C'est une bonne journée pour ça.
Bon, voilà. À tout de suite, la pub.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
À 13h10 avec Laurent Tessier. Bonjour Laurent.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Êtes-vous anti-masque ? Eh bien Francine est catégorique sur la page Facebook de l'émission. Si certains ne veulent pas porter de masque, alors qu'ils aillent jusqu'au bout et refusent de se faire soigner. Michael l'avoue, hein, je mets le masque simplement pour ne pas prendre une prune. Ce sont des inconscients, réagit Bruno. Comment peut-on être anti-masque ? Le porter, c'est respecter les autres, écrit Patrick. Et en France, bah c'est dingue, nous dit Monique sur nos réseaux sociaux. Il y a toujours des révolutionnaires, des opposants à tout. Il me fatigue. Un point, c'est tout.
Alors, Martine est anti-masque, justement, et je disais qu'on ferait un petit duel avec Frédéric, mais Frédéric, on n'arrive pas à sécuriser la liaison. Marina avait ouvert le bal tout à l'heure, et Martine va pouvoir échanger avec Marina, puisque Marina, à juste titre, disait, voilà, ceux qui ne portent pas de masque, ils ne respectent pas les autres, ils ne pensent pas aux autres. Martine, bonjour.
Bonjour.
Vous habitez dans les Yvelines.
Absolument. Alors déjà, je trouve que les pro-masques ont des attitudes hyper moralisatrices et culpabilisantes et ne respectent pas la liberté des autres. Hein, toutes les positions sont recevables. Dans la rue, nous sommes à l'air libre. Alors à ce moment-là, qu'on fasse un trottoir, geste barrière, un trottoir pour ceux qui choisissent de porter le masque et un trottoir pour ceux qui choisissent de ne pas le porter. Bah oui, et bah comme ça, on aura toute la
ah oui, déjà, on comprend rien, donc là, ça va être pratique. On va avoir des trottoirs masques et des trottoirs anti-masques. Je récuse cette solution, Martine. Je la récuse parce qu'elle n'est pas possible. Non, mais sérieusement, qu'est-ce que vous répondez à Marina ? D'abord, à l'air libre, moi, je suis d'accord avec vous, puisque les médecins disent que ce n'est pas indispensable, ce n'est pas utile, ce n'est pas efficace. Mais quand vous entrez dans un endroit, par exemple, si vous étiez en entreprise comme nous, évidemment qu'il faut porter le masque.
Alors là, d'une part, quand vous regardez tous les chiffres au niveau du virus, au niveau du nombre de malades, je ne parle pas de cas positifs parce qu'il ne faut pas. Moi, je suis dans le professionnel de santé. Quand quelqu'un est malade, on parle de cas, tout simplement. Donc, on parle de gens malades.
Vous êtes, pardonnez-moi, vous êtes médecin ?
Non, je suis orthophoniste spécialisée en neurologie, donc j'ai soigné beaucoup de gens avec des troubles neurologiques. Voilà. Et donc, quand les gens sont malades, ils restent chez eux et ils se soignent. Point. Ils ont eu la maladie, ils ont développé leur immunité acquise, donc ils ne sont plus contagieux, donc ils ne peuvent pas transmettre quoi que ce soit. OK ? Qui plus est, quand vous avez une verrue, vous la brûlez avec de la neige carbonique. Que fait le gaz carbonique sur le cerveau ? Et c'est de l'intoxication mentale.
Vous pensez que le masque peut intoxiquer mentalement ?
Ça intoxique le cerveau.
Mais les médecins qui ont un masque toute leur vie, Le personnel soignant qui ont un masque dans les hôpitaux,
alors, ils ne l'ont pas H24, déjà et
d'une. Ils l'ont beaucoup
Ils l'ont dans des conditions très particulières, c'est-à-dire au moment des interventions et ainsi de suite. Un enseignant, vous allez lui coller un masque toute la fin de journée, le soir, il est épuisé, il a des maux de tête, il a des allergies. Et il y a eu, une intervention du président Macron, il n'a pas tenu 10 minutes avec son masque.
Bon, Annick va vous répondre peut-être. Annick,
quelqu'un d'autre.
Annick, bonjour, qui habite Paris. Annick.
Oui, bonjour Pascal.
Vous entendez Martine. Que pensez-vous de ce que dit Martine ?
J'entends des inepties absolument pas possibles. C'est pas possible d'entendre des choses pareilles. Alors moi, je vais vous dire, j'ai pas du tout envie de dialoguer. Je vais juste vous dire une chose. Ils sont 200, place de la République. Vous avez 200 pingouins qui sont là, anti-masque, anti-masque. Tout ça, pourquoi ? Parce que le président de la République, ou le gouvernement, leur a dit. Ça vient d'en haut, donc on ne le fera pas. Ce sont des anti-tout. Moi, j'étais en vacances dans le sud de la France. J'ai vu encore des pingouins qui étaient là, dehors, à giner, à se faire des bisous-bisous, à se prendre par le cou et tout. Mais mes cocos jolis, attrapez-le, le virus ! Mais je n'ai surtout pas demandé à ce qu'on vous soigne. Parce qu'il y a des gens qui, malheureusement, attraperont le virus, alors qu'ils vont tout respecter. Donc toutes ces inepties d'anti-machin, anti-truc, moi ça me met dans une colère folle. Alors cette femme, quand même, elle a l'air sensée, mais là, non mais attendez...
Martine, est-ce que vous êtes sensée, Martine ? Voilà une bonne question.
Je la pense aussi, mais on fait des vaccins contre la grippe tous les ans, ça n'empêche pas que plein de gens attrapent la grippe. Voilà.
Mais ça n'a aucun rapport. On vous parle des masques, on ne parle pas de la grippe.
On parle des épidémies, madame. Quand il y a la grippe saisonnière, est-ce que l'on oblige les gens dans les magasins à porter un masque pour pas qu'ils refilent la grippe à tout le monde ?
Non, mais on va l'obliger bientôt, ça je vous le dis.
On va l'obliger, que ça sera très bien, madame.
Attendez. Annick. Là, vous me faites peur.
C'est ce que j'ai dit qu'il ne fallait pas dire.
Non, Annick, là, Annick, qui est donc pour les masques, c'est exactement ce que je pense. Vous venez de dire exactement ce que j'imagine dans la société de demain. Et quand je dis qu'on a mis le doigt dans un engrenage mortifère, vous venez de dire que ce sera très bien qu'on porte toujours des masques pour se protéger de la grippe des autres. C'est ce que vous avez dit, Annick.
Oui, tout à fait. Mais il y a un mot qui me choque. Pourquoi vous dites mortifère ?
Mais parce que la vie, c'est le risque. Et que le bénéfice que vous aurez, peut-être avoir moins de grippe, moi je ne veux pas de cette société-là. Mais je vous dis mon humble avis. Pour la situation actuelle du Covid-19, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Puisqu'on n'a pas de vaccin, puisqu'effectivement, c'est une situation particulière. Mais si vous voulez, pour des raisons sanitaires, et vous avez raison sanitairement, c'est-à-dire que si on porte tous le masque, il y aura moins de gastro, il y aura moins de grippe, il y aura moins de virus. Vous avez parfaitement raison sur un plan sanitaire. Mais je ne veux pas, à titre personnel, de cette société. Mais vous la voulez peut-être, Annick. Et chacun choisit son camp.
Non, mais attendez, c'est pas une question de choisir son camp. Parce que dans ces cas-là, Pascal, vous êtes anti-masque. Et vous ne voulez pas l'avouer.
Mais je vous ai dit que ce que j'en pensais. Je ne suis pas anti-masque, je le porte. Je vous dis, aujourd'hui, on met le doigt...
On voit vos photos sur les vidéos d'RTL, vous n'avez pas de masque.
Mais je suis tout seul dans le studio. Annick, je suis seul dans le studio.
D'accord, ok. Et puis, pour en revenir...
Non mais Annick, vous vous rendez compte de ce que vous me dites ? Je suis tout seul dans un studio de 50 mètres carrés.
Je ne savais pas.
Vous voyez bien qu'il n'y a personne à côté de moi.
Je ne peux pas deviner qu'il y a quelqu'un ou pas à côté de vous.
Mais moi, je comprends ce que vous dites, Annick. Je pense que vous allez être majoritaire en France. Je pense qu'il y a plein de gens, c'est ce qui me fait peur. J'en ai peur qu'il y ait beaucoup de gens comme vous qui disent, après cette crise, le masque toujours, tout le temps. Pour la raison que vous avez dite, d'ailleurs. La grippe,
les
gastro...
Les Japonais, les Chinois, ils se comportent
mal. Mais Annick, je le sais. Mais je le sais.
Alors, il est où le problème ?
Mais c'est un argument. Mais vous avez parfaitement raison. Je vous le dis, il y a des gens qui sont exactement sur votre ligne. Et c'est où le problème ? Effectivement, on va tous être masqués. Pour moi, le problème, c'est qu'effectivement, une société, c'est de voir un visage. Je vous réponds précisément. Pour moi, une société, c'est voir un visage. Pour moi, une société, c'est serrer la main des gens. Mais ça, c'est mon avis. Je comprends que vous puissiez penser différemment.
Avant, je serrais la main des gens. Maintenant, je ne la serre plus. Ça ne me gêne pas plus que ça.
Mais Annick, vous avez forcément raison pour vous. Moi, je conclus souvent ces discussions comme ça. Vous avez forcément raison pour vous. C'est imparable ce que vous me dites. Moi, je ne veux pas de cette société, vous la voulez. Bah, bon, après, je dis, chacun choisit son camp.
Pascal, juste une chose. Je tiens à vous signaler que le débat, il n'était pas là-dessus. Il était pour ou contre les anti-masques.
Oui, mais voilà. Comment dire ? C'est intéressant votre position, parce que moi, je vois une sorte de radicalisation qui existe sur ce... Bah, sur ces, non, vous dites vous-même, ça sera très bien quand on aura les masques pour la grippe. Et je pense qu'on a mis le doigt dans l'engrenage. Et c'est ça qui me gêne dans cette séquence.
Bah écoutez, Pascal, attrapez la gastro, attrapez la grippe, vivez votre vie comme vous voulez. Moi, personnellement, j'ai des jolis masques en tissu avec des fleurs, avec des petites cerises, avec des petits chats. Et je m'en sors pas plus mal.
Mais je ne cherche pas à vous convaincre, Annick.
Ah, mais vous n'y arriverez pas de toute manière.
Ça, mais je ne cherche pas à vous convaincre. Je dis que je n'aime pas cette société. Moi, je ne cherche pas à vous convaincre. Je vous dis, vous avez raison pour vous.
Ah ben oui, ben écoutez, vous n'aimez pas cette société, moi j'y peux rien. Quant à la personne là, qui dit qu'Emmanuel Macron n'a pas supporté le masque, c'est pas ça, il a été pris d'une canne de toux. Il a bu un verre d'eau, il a remis son masque et tout, c'est très bien passé.
Passionnant, Annick, parce qu'Annick, elle représente plein de gens. On va laisser
j'espère
passer.
J'espère bien, oui, les gens intelligents.
Ah, ça en revanche, c'est pas gentil. Parce que de dire que vous, les gens intelligents, et que les autres sont des imbéciles, ça, Annick...
Je n'ai pas dit que c'était des imbéciles.
Non, mais si vous dites que vous êtes... Parce que vous avez cette position et que vous êtes intelligent, c'est-à-dire que les autres ne le sont pas. Et ça, c'est pas terrible comme argument, si vous me permettez.
Les deux champingouins qui sont en train de manifester à la République, si vous les trouvez intelligents...
Annick, moi, je n'ai pas de jugement de ce type et je vous ai dit, je ne cherche pas à vous convaincre. Chacun, je vous ai même dit, vous avez raison de votre point de vue. Vous vous dites, on est du camp des gens intelligents. Et je vous dis, ça, c'est pas gentil. Il est 13h20. J'aime bien quand on est avec des auditeurs avec lesquels on n'est pas d'accord, forcément. C'est ça qui est intéressant dans le débat. Et puis ceux qui nous écoutent, ils se disent, voilà, j'ai choisi mon camp. Si j'ose dire, chacun choisit après. C'est ça la démocratie, ami. Par exemple, Greg Caranoni a son masque. Et il a raison.
Bien sûr, vous l'entendez ?
Bien sûr, parce que vous n'êtes pas tout seul dans le studio. Moi, je suis tout seul, donc évidemment. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Faut-il légaliser l'euthanasie ? Ce sera notre duel entre 14h et 14h30. Alain Coq, vous le savez, est atteint d'une maladie incurable. Il vous laisse mourir et finalement, il accepte de bénéficier des soins palliatifs. Et c'est le problème de la fin de vie. On sera avec Jonathan Denis, qui est secrétaire général de l'AMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Et puis Pascale Morinière, qui est médecin et présidente des associations familiales catholiques. Et on connaît effectivement la position des catholiques. On ne choisit pas sa mort, donc effectivement, l'euthanasie, on ne l'imagine pas. Alors, c'était passionnant d'ailleurs, il y a quelques instants, on va continuer. Alors, Marina, par exemple, qui était au départ de notre conversation, qu'est-ce que vous avez pensé de notre échange, Marina ?
Je suis contente de ne pas avoir eu à débattre avec Martine, que j'ai trouvé vindicative dans ses propos. Et je suis désolée, mon mauvais sort, mais limite ridicule.
Bah, elle est toujours là, d'ailleurs, Martine. Hein.
D'accord, parce que bon, je vais parler de mon cas. Donc, comme je vous disais, j'habite près de Lyon, mais je travaille dans le centre de Lyon, dans un quartier dit d'affaires. Quand il m'arrive de sortir entre midi et deux, ce que j'essaie de limiter au possible, je passe sur des trottoirs où cohabitent cyclistes, piétons, dans un espace qui est très limité. Par la force des choses, avec les piétons et les cyclistes, on se croise dans des espaces contraints, on va dire. Et selon moi, même si on est à l'extérieur, il est complètement imprudent de ne pas porter de masque dans ces endroits.
Mais Marina, les médecins vous disent qu'il faut une situation prolongée de contact en milieu clos pour que vous attrapiez le virus.
Oui, mais si la personne, au passage, si je croise une personne, je ne porte pas de masque, je suis un anti-masque ou voilà, j'ai oublié mon masque, mais je sors quand même. Je croise une personne qui elle-même ne porte pas de masque, éternue ou tousse en ma direction, et pour peu qu'il y ait un peu de vent ce jour-là, par exemple.
Eh bien, c'est pas possible. A priori, vous attrapez pas le virus, si j'ai bien compris, depuis 6 mois.
Alors, peut-être, mais moi, personnellement, je préfère me dire que je risque peut-être de l'attraper. Mmh. Je préfère sortir, même si ça ne me réjouit pas, masqué.
Mais un même masque, si les médecins vous disent qu'il n'y a aucune probabilité que vous l'attrapiez dans ces conditions-là.
Oui, tout à fait. Parce que je trouve, moi, pour moi, en fait, il y a les deux tendances. D'un côté, on nous affirme des choses. comme l'impossibilité d'attraper la Covid dans de telles conditions. Et de l'autre côté, on nous dit que c'est un virus qu'on connaît très peu. Donc, tous les jours, il y a de nouvelles informations qui nous arrivent, que ce soit de France ou de l'étranger. Moi, dans le doute, je préfère porter le masque. Comme je vous disais tout à l'heure à votre standardiste, à la maison, on est trois. On est trois à porter le masque. On
a une fille. Mais vous le portez entre vous ?
Non, absolument pas.
Bah, ah bon.
Non, merci, on le porte pas à la maison, mais quand on sort ou qu'on va faire des courses ou quand mon époux part travailler ou que ma fille va à l'école, on porte le masque. Mmh. Ça me réjouit pas, moi, de glisser mon masque dans mon sac à main le matin pour aller travailler. J'ai la chance d'être dans un bureau seul, donc je l'enlève dans mon bureau. Par contre, du moment que je sors de mon bureau pour aller faire une photocopie, aller aux toilettes ou déambuler dans les couloirs, je porte le masque. Et du moment que je sors du bâtiment, je porte le masque, et ce, depuis le début du confinement, depuis qu'il a été recommandé de le porter. Je n'ai pas cessé de le porter. On porte quasiment que des masques lavables à la maison. Toutes les semaines, je fais ma lessive à 60 degrés, quoi qu'on nous en dise. Je vois pas pourquoi, subitement, c'est moins 30 degrés dans la lessive. Moi, ça me pose aucun problème de faire une lessive d'une heure et des bananes à 60 degrés pour laver mes masques. J'ai encore fait une hier soir. Voilà.
Écoutez, après, Marina, tout ce que vous dites, là encore, j'ai envie de dire, de toute façon, qu'en faisant ça, vous faites de mal à personne. Donc, continuez, poursuivez, oui, effectivement, voilà, votre attitude. Si vous voulez laver votre masque à 60 degrés, lavez-le à 60 degrés. Vous voyez, si vous voulez sortir avec votre masque dans la rue, sortez avec votre masque dans la rue. Il n'y a rien à redire là-dessus. On laisse passer une page de pub. Et alors, on a quand même des anti-masques qui arrivent. Il y a Evelyne qui arrive, il y a Eric. Donc on va les écouter. Et puis à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL. RTL, Tour de France 2020.
Le Tour de France sans son directeur Christian Prudhomme, qui était aujourd'hui confiné. Bonjour Raphaël Vantard.
Bonjour.
Vous étiez à l'île de Ré, vous êtes où désormais ?
Et bien actuellement, le peloton profite des derniers brins d'air marin sur cette grande esplanade de bord de mer de Châtelaillon-Plage. Tout est réuni ici pour une belle étape d'été. Un soleil de plomb, il fait 30 degrés actuellement. Beaucoup de monde sur le bord de la route et un vent assez fort de face qui ne va pas forcément favoriser les échappées. D'autant que le parcours est assez plat aujourd'hui. Une seule petite difficulté de quatrième catégorie dans cette traversée du Marais Poitevin jusqu'à Poitiers. Poitiers où donc les sprinteurs pourraient une nouvelle fois s'expliquer tout à l'heure.
Et bien merci Raphaël Vantard. 13h31.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Alors, parlons avec avec Eric. Tiens. Bonjour Eric.
Bonjour Pascal.
Oh là là, vous me paraissez en forme Eric.
Oui, tout à fait.
Bon, vous habitez Metz.
Oui. J'aurais voulu déjà répondre à l'auditrice précédente. C'est Martine, c'est ça, qui a parlé qu'en Chine et au Japon.
C'était, oui, alors c'était Martine, et puis effectivement, voilà, qui disait qu'en Chine...
Voilà, tout à fait. Il ne faut pas oublier que dans ces pays-là, ils mangent de la chauve-souris en soupe, et que la chauve-souris est vecteur et porteur de la rage. Donc, si elle a envie qu'on prenne exemple sur ces pays, pourquoi pas ? Déjà, pour commencer, c'était pour Martine. Maintenant, je suis contre le port du masque. Je précise bien... En lieu public et en extérieur. Dès que je rentre dans un magasin, je mets mon masque, je fais mes courses, j'enlève mon masque. Je vais chez mon médecin, je mets mon masque, je sors de chez mon médecin, j'enlève mon masque. Maintenant, si on m'oblige à porter le masque en extérieur, dans la rue, en lieu public, je dis non. Non.
Mais vous n'avez pas le choix.
Non.
À Paris, on n'a pas le choix. À Metz, c'est pas obligatoire à l'extérieur.
Pour l'instant. Mais Monsieur Praud, le 11 octobre 2010, il y a une loi qui a été votée 92-10 interdisant de masquer son visage en lieu public.
Oui.
On est bien d'accord.
Bah oui, mais là, c'est un cas de force majeure.
Ça a été aussi fait pour les burkini et compagnie. Or, un décret n'abroge pas une loi. C'est ce qui s'est par exemple passé en Alsace, Bas-Rhin et compagnie. Il y a eu 11 communes dont le nom me reviendra, qui a porté réclamation parce qu'on lui a même pas donné son avis et on lui a imposé le port du masque pour le lendemain. Or, un décret n'abroge pas une loi. Je ne vais donc pas me mettre hors la loi.
Oui, mais là, vous biaisez un peu parce que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que c'est efficace et utile ou pas. Alors,
mais
effectivement,
c'est pas
en extérieur. En extérieur, moi, j'en sais rien. Je n'ai pas d'avis. Je dis souvent ça. Moi, je n'ai pas d'avis. Les médecins disent que ça ne sert à rien. Donc, j'écoute les médecins. Il y a consensus sur l'extérieur. C'est ce qu'ils disent.
J'entends bien. Bon, mais alors, avec
donc, la discussion est terminée. Si les médecins le disent. Si les médecins disaient le contraire, moi, si c'était, je l'ai dit hier, le virus Ebola et qu'il se transmettait.
Ah là, c'est pas la même.
Et qu'on risquait de mourir dès qu'on était infecté, croyez-moi, je le mettrais immédiatement, le masque.
C'est pas du tout la même.
Bon, là, mais, on me dit, à l'extérieur, ça sert à rien. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise
voilà. Mais deuxième point que j'explique, dans les lieux publics, est-ce que ça vous arrive de prendre le métro, le bus et compagnie?
Oui, oui. J'ai pris le train ce week-end, j'ai pris... Voilà. Oui, bien sûr.
Vous arrivez, vous payez. La personne qui a sa carte bleue sur elle le jour même paye en monnaie. Est-ce que vous voyez les agents qui entretiennent ces machines venir désinfecter tous les deux heures comme il avait été convenu de désinfecter tous ces appareils? On n'en voit aucun. Moi, je cite l'exemple de ma ville, à Metz, qui est une commune de droite. On a le bus, le Métis. Vous prenez le Métis à 11h du soir, vous trouvez les emballages McDonald's, les pipes à sol, vous trouvez tout. Et vous prenez le premier Métis du lendemain matin, ces mêmes ordures, ces mêmes emballages...
Mais qu'est-ce que vous voulez dire ?
Sont toujours par là. Bah, ils désinfectent pas les bus, ils désinfectent rien. Pourquoi nous, on obligerait de porter un masque sur la voie publique ?
Bon, merci en tout cas Eric. Sandrine est là ou on met une page de pub ?
On peut lui dire bonjour, mais il est temps de faire de la pub.
Donc, il y a beaucoup de pubs hein, aujourd'hui,
oui,
hein,
bonjour.
Grégory. Sandrine est là, dans une seconde. Sandrine, alors, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Alors, Sandrine, qui habite Boissy-Saint-Léger, qui va pouvoir répondre, pourquoi pas, à Eric, qui est un anti-masque. Alors, un anti-masque à l'extérieur, hein, bien sûr.
Oui, bonjour Pascal. Bah déjà, je voulais vous remercier de votre émission que j'écoute souvent. Et alors, ce qui m'ennuie un peu, c'est pour ça que j'ai réagi. Ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'ai hésité. Mais c'est ce débat autour du masque qui dure quand même depuis un moment. Et moi, ça m'ennuie parce que là encore, je trouve qu'il n'y a pas à être pour ou contre. Il y a des recommandations qui proviennent de médecins. Alors le problème peut-être, c'est que les gens découvrent que la communauté scientifique, bah voilà, il y a des débats, il y a des gens qui sont pas d'accord les uns avec les autres, etc. Et du coup, ça donne des informations contradictoires. Ça, c'est le premier point. Et effectivement, je pense que certaines personnes peuvent se sentir perdues. Mais au-delà de ça, je pense que le bon sens, parfois, ça serait pas mal aussi. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a des recommandations de la part de médecins que les gens n'ont pas le droit de réfléchir par eux-mêmes. Et du coup, c'est pas un problème d'être pour ou contre. C'est là, on est face à une situation exceptionnelle qui est liée à une maladie. Je pense que tout le monde non plus ne sait pas comment fonctionne un virus. Peut-être ça aussi le problème. Et quand on nous dit... Le port du masque est quand même très recommandé, voire obligatoire, dans les endroits notamment clos et en forte concentration de population. C'est pas, voilà, c'est pas anodin. C'est quelque chose qu'il faut respecter. C'est la contamination.
Mais là, il y a consensus là-dessus.
Ah oui, oui, oui.
Honnêtement, il y a consensus dans les lieux clos, il y a consensus. Il y a tellement consensus d'ailleurs que les gens, et c'est ça qui est inquiétant, ne vont plus au cinéma ou au théâtre parce qu'ils hésitent et ils ont peur. Donc,
Voilà, mais la peur a aucune. Enfin, la peur ne résout rien. La peur n'a aucun intérêt dans ce débat.
Sauf qu'elle a des conséquences.
Bien sûr.
Des conséquences, et je pense aux restaurateurs, je pense aux bars, je pense effectivement aux boîtes de nuit qui sont fermées, je pense à tous ces endroits clos, et c'est, moi je trouve que c'est un drame, forcément, puisque les gens n'y vont plus.
Oui, bien sûr, mais je pense que là encore, c'est pas raisonnable. Enfin, on est dans quelque chose, c'est comme le « je suis pour, je suis contre », on est dans des extrêmes qui n'ont pas d'intérêt. C'est-à-dire que
vous allez au cinéma, par exemple ?
J'y suis pas encore retournée, mais
vous rendez compte ?
Pas peur d'y aller. Hein. Je fais
oui,
mois,
mais
c'est
vous
n'êtes
pas allé. Vous n'êtes pas allé depuis le 15 juin au cinéma ?
Non, mais
et
je
on
sors,
est le 15 septembre.
Voilà, je m'interdis.
Vous allez au restaurant sans problème ?
Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, oui. Non, mais le cinéma, c'est parce que c'est pas du tout dans mes habitudes. Hein. Là, il y a pas de, c'est pas plus, pas moins. Mais non, il y a pas de souci avec ça. Du moment que, voilà, on se lave les mains avant, après. qu'on respecte une certaine distance et qu'on porte le masque quand on est en train de parler à quelqu'un, quand on est face à quelqu'un, il y a aucun souci. Voilà, le mode de contamination, c'est par contact et par postillon. Comme tous les virus, hein, la grippe, c'est le même principe.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Voilà, donc il n'y a pas de... Je veux dire, il n'y a pas à tomber dans une parano affolante à dire on va porter le masque partout tout le temps. C'est complètement stupide. Moi, je pense que...
Oui, mais vous attaquez... C'est pour ça que, comment dire, cette épidémie, elle percute l'ADN. Il y a des gens qui sont névrosés.
Oui, ça, je peux le comprendre.
Et qui sont névrosés de la santé. Tout à l'heure, la dame qui disait « Moi, je veux qu'on ait des masques toujours et tout le temps maintenant pour la grippe, pour la gastro-entérite » et qui dit « En Asie, ça se passe très bien et pourquoi on ne le ferait pas, nous, en France ?» Moi, je ne sais pas quoi répondre à cette dame parce qu'elle a objectivement raison sur ce qu'elle dit sanitairement. Ce qu'elle dit, c'est juste.
Oui et non.
Sanitairement, elle a raison. Oui, mais il n'y a pas que la vie sanitaire, si j'ose dire. Mais c'est ça qui est très piégeux, en fait, dans ces discussions.
Non, je ne pense pas qu'il y ait de piège, en fait. Je pense que cette dame, elle va à un extrême qui est effectivement le tout sanitaire. Je pense que... Alors, elle parlait du Japon. Moi, j'en ai parlé aussi à votre standardiste. Au Japon, mais on n'est pas des Japonais, hein, il faut pas... L'éducation est complètement différente. Au Japon, quelqu'un qui tousse ou quelqu'un qui a la diarrhée ou voilà, qui a des symptômes de ce genre, se pose pas de questions, il met un masque. Pour protéger les autres. Même avant d'aller chez le médecin, voilà, il sort, il met un masque parce que il sait qu'il a
c'est
quelque
sa culture.
Chose. Mais oui, mais voilà. Donc ça, je dirais, c'est jouable chez nous. Mais voilà, encore faudrait-il que les gens se responsabilisent un peu et se disent bon bah là, je tousse, je mets un masque. Mais il n'est pas question de le mettre partout, tout le temps, pour tout le monde.
Bah merci en tout cas, je pense qu'on a, on va refermer ce chapitre et on va commencer à amorcer ce qui sera notre duel tout à l'heure avec la question faut-il légaliser l'euthanasie avec le suicide assisté, et nous allons parler de ce sujet avec Jonathan Denis qui est secrétaire général de l'ADMD, c'est l'association pour le droit de mourir dans la dignité, avec Pascale Morinière qui est médecin et présidente des associations familiales catholiques. Alors on peut commencer peut-être à amorcer ce débat avec Evelyne, bonjour.
Bonjour Monsieur Pro.
Et effectivement, on revient sur Alain Coq qui est atteint d'une maladie incurable, qui voulait se laisser mourir et finalement il accepte de bénéficier de soins palliatifs. Il est resté 3 jours sans traitement et sans alimentation, mais ce qu'on imaginait vendredi quand on en a parlé, c'est avéré. C'est-à-dire que c'était horrible de souffrance, il pouvait pas, on ne pouvait pas le laisser comme ça, c'était horrible de douleur. Il ne pouvait pas mourir comme ça.
Oui, mais là il n'accepte pas. Il n'accepte pas, il est inconscient, donc on l'a hospitalisé d'office, donc dans son inconscient. Donc non, il n'est pas du tout d'accord. Pas du tout d'accord. Il a une maladie incurable.
C'est contre sa volonté hein, qu'il est soigné d'une certaine manière.
Oui, absolument. Absolument. Oui. Mais là, il est inconscient, on l'a hospitalisé d'office. Parce qu'en fait, on veut le maintenir en vie. Écoutez,
c'est l'affaire de Vincent Lambert, d'ailleurs. Il y a des parallèles, en tout cas, avec Vincent Lambert.
Oui, mais enfin, lui, il avait une famille dont une mère complètement barjot. Parce que franchement...
Faisons attention à ce que nous disons, là. Faisons attention, parce que c'est des sujets tellement sensibles que...
Ça faisait combien 10, 15 ans qu'il était...
J'entends ce que vous dites, mais le mot, je le retire pour vous, parce que le mot, il n'est pas adapté à une situation d'une femme aussi qui souffrait, pour le coup, même si on peut ne pas partager son avis.
Monsieur
Pro. Non, mais ce n'est pas vis-à-vis de moi, mais je le retire pour vous, le mot que vous avez employé.
Absolument. Alors, je peux vous dire mon cas personnel. J'ai mis de l'argent sur un compte. Mes enfants sont tout à fait au courant. Si jamais un jour, je deviens complètement handicapée et que j'ai une maladie incurable, moi, je veux absolument... Alors, j'espère... Bon, j'ai 70 ans, hein, donc j'espère que dans 10 ans, le plus tard possible, mais que la loi aura changé, qu'on meure dignement. Je veux être entourée de mes enfants le jour où je vais partir. Et je veux pas mourir toute seule dans un EHPAD ou dans un service de réanimation. Je ne veux pas mourir toute seule à l'hôpital. Du tout, c'est pas mon vœu. Je suis quelqu'un qui a été dynamique toute ma vie, comme ma maman d'ailleurs, et je ne veux pas mourir comme un légume. Non, il n'en est absolument pas question. Donc mes enfants sont au courant, ils débloqueront cet argent et ils m'enverront en Suisse ou en Belgique, quand même, qui sont des pays limitrophes de la France et qui acceptent l'euthanasie assistée. Je comprends pas. La France, je sais pas, c'est rébarbatif pour plein de choses. Ça devient pénible.
Eh bien, on continue le débat, en tout cas. Et voilà. Greg Caranoni, vous êtes jeune, la mort n'existe pas pour vous, cher Greg. Vous avez 30 ans.
Un peu plus.
Mais la mort n'existe pas. La
si, vérité, elle existe, bien
non,
sûr.
Non, on n'imagine pas à 30 ans qu'on va mourir. Parce que vous avez devant, mais après, on avance. La mort, elle peut commencer à poindre quand on a passé 50 ans. C'est mon anniversaire aujourd'hui.
Oui, bah c'était une circonstance.
À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Sujet passionnant, la mort hein, et le rapport qu'on a à la mort. D'ailleurs, Grégory, vous pouvez me dire ce que vous me disiez en dehors de l'antenne.
Je vous disais que je n'avais jamais autant pensé à la mort que depuis que je suis papa.
Bah oui, évidemment.
Pas parce que ça me fait peur de mourir, mais parce que ça me fait peur de laisser ma famille maintenant.
Mais évidemment, forcément. Lorsqu'on est père, le rapport à la mort change puisqu'on est effectivement... Et puis on est inquiet toujours. C'est surtout ça qui me frappe, moi. À partir du moment où vous avez un enfant, vous êtes inquiet toujours et tout le temps. Mais c'est pas le sujet. Dominique, faut-il légaliser l'euthanasie, le suicide assisté? On en parlera entre 14h et 14h30. Vous habitez Tournai. Quel est votre avis?
Oui, bonjour Pascal. En fait, j'habite à la frontière française, du côté belge, près de à Tournai. Effectivement, c'est à 20 minutes de Lille. Et je voulais intervenir parce que vu de l'extérieur, comme ça, la France paraît un pays tellement compliqué, tellement conservateur, tellement anti-tout, en fait. C'est ça qui est absolument incroyable. Figurez-vous qu'en Belgique, l'euthanasie est autorisée depuis plus de 10 ans. Bien sûr, il y a des règles à respecter. Il faut d'abord se rendre à la maison communale. Il faut exprimer son souhait. Ensuite, il faut avoir l'avis du médecin traitant, avoir l'avis du professeur qui a pris en charge le patient et qui se rend bien compte que voilà, j'ai eu un ami moi qui a fait 3 cancers successifs les uns derrière les autres. Il avait 54 ans et le dernier cancer qu'il a fait, c'était au cervical. Il avait des maux de tête, mais rien ne pouvait être fait. On ne pouvait pas l'opérer, on ne pouvait pas le calmer, on ne pouvait rien faire.
On ne pouvait pas le calmer ?
Oh non, impossible.
La douleur, impossible. C'était impossible.
Impossible. Impossible, oui, tout à fait. Mais je sais, je l'ai vécu, c'était atroce. Et figurez-vous que ses parents étaient très croyants. Il avait même été lui-même enfant de cœur quand il était gamin. Et il a eu recours à l'euthanasie, ça s'est bien passé. Il a réuni sa famille un vendredi soir, il a dit ce qu'il a envie de dire. Et le lundi matin, sa femme, elle l'a amené à l'hôpital. Il y a des endroits qui sont comme des salons dans lesquels il y a des lits. Et puis,
mais il n'était pas en fin de vie, parce que nous, non. La loi Leonetti, c'est non. Toute la difficulté, non. C'est que tu non. Peux faire ça quand tu es en fin de vie. Non. Et cette notion de fin de vie en France, elle est très particulière, effectivement, parce que...
C'est trop conservateur, hein, c'est pas possible.
Et vous dites conservateur, et en même temps, on a fait le mariage pour tous, on a fait attendez, la PMA, Pascal, on va faire peut-être la GPA, en tout cas c'est pas...
Pascal, je suis désolé, hein, mais là aussi, si on revient sur le mariage pour tous, chez nous, il y a 8-10 ans que c'est passé.
Bah, et chez nous aussi,
ça n'a donné lieu
il y a combien
à
de temps
aucun... Ça n'a donné lieu à aucune manifestation. C'était voté, point la ligne, et oui. Appliqué. Et chez vous, vous avez duré, ça a duré.
Et vous êtes belge, Dominique ?
Oui, oui. Mais j'ai des origines françaises. Je connais bien les Français. Mais c'est vrai que quand on ne peut plus rien faire, et là, c'est pour ça qu'on ne peut pas prendre de sa propre initiative ou simplement le médecin traitant, mais il faut avoir des garde-fous. Et quand on est arrivé au dernier garde-fou et qu'on dit qu'il n'y a rien à faire pour ce monsieur, il va souffrir comme ça, et c'était devenu mais complètement insupportable. Et il s'est fait euthanasier, c'est tout. Voilà.
Non, mais je vais vous dire, je pense qu'il y a un consensus en France, quand même, autour du fait que chacun puisse disposer de sa mort comme il l'entend. Voilà. Il me semble que c'est quelque chose, quand même, qui pourrait être, je ne sais pas si c'est droit fondamental, je ne sais pas si c'est le terme qui convient, mais ça me paraît assez évident qu'il y ait ce consensus autour de ce thème-là. Et je suis en train de fouiller dans mes papiers pour tout vous dire, parce que je suis en train d'essayer de chercher un texte que j'ai lu de Nicolas Bedos sur Instagram, et peut-être que Nicolas Bedos a été confronté ces derniers mois dans sa vie personnelle à cela. Et voilà ce qu'il a écrit. Il a dit « Nos adieux, c'est notre vie. On a fait tant pour notre arrivée sur Terre et si peu pour notre sortie. Tous ces biberons, ces psys, ces blocs, ces nounous pour se barrer démunis, impuissants, souffreteux et meurtris comme des merdes », écrit-il. Nos derniers souvenirs sont précieux comme la vie qu'ils contiennent. La dernière page engage la qualité et le sens du livre. Pour tous ces sujets buzz à deux balles qui mobilisent notre jeunesse, par pitié, considérons mieux celui-ci. Nos adieux, c'est notre vie. Et il a écrit, alors ça c'était ce matin, je crois, le premier papier que je vous ai lu, je pense que c'est samedi. Et il a écrit ce matin ou hier matin, je publierai bientôt un texte où je précise en détail les raisons de cette position et je ne suis pas du genre à jouer les artistes engagés. La loi Leonetti laisse nos soignants dans un flou d'interprétation qui les plonge eux-mêmes dans les dilemmes éthiques. La sédation intervient souvent bien après que les conditions de dignité ne puissent plus être respectées. Quant à la prise en charge des patients en fin de vie, nos courageux soignants méritent une formation psychologique afin que ceux qui s'en vont emportent avec eux des souvenirs de douceur, de respect et rien d'autre. Nos adieux, c'est notre vie. Merci beaucoup Dominique. Il est 56. Laurent Tessier.
Faut-il légaliser l'euthanasie, le suicide assisté ? Des questions qui font débat depuis des années. Alain Coq, atteint d'une maladie incurable et qui voulait se laisser mourir, a finalement accepté de bénéficier de soins palliatifs. Il est resté plus de 3 jours sans traitement ni alimentation. Sophie Metzberg, vice-présidente de l'association Andy, mais pas que, et proche d'Alain Coq, a réagi au micro de Julien Fautra.
J'ai eu 3 fois de suite au téléphone. Oui, il n'a qu'un mot à la bouche, je veux partir. Je suis fatiguée. Voilà. Il a atteint un degré de souffrance, mais épouvantable, qu'aucun être humain ne peut supporter, et qu'il a demandé que le médecin appelle le SAMU et qu'on l'emmène à l'hôpital pour l'aider à partir.
Alain Coq avait souhaité retransmettre son agonie en direct sur Facebook pour faire évoluer la législation sur la fin de vie. Le réseau social a bloqué sa vidéo samedi matin. Il souffre d'une maladie génétique rare qui bloque ses artères, des douleurs insupportables au quotidien.
Il y a 1 an et demi, la dernière fois que j'ai pu m'asseoir, c'était à hurler. Malgré les traitements très lourds, toutes les 2 à 3 secondes, j'ai une décharge électrique qui part de la racine de la tête, qui se diffuse. Dans tout le corps, il y a les réseaux nerveux jusqu'au bout des doigts. C'est comme si j'avais un incendie qui me mettait en ébullition du cerveau. Je sais que je suis en train de perdre la vue. C'est-à-dire que dans un avenir qui n'est pas si lointain, je me retrouvais dans la situation de Vincent Lambert. Je veux mourir.
La loi Leonetti sur la fin de vie n'autorise la sédation profonde que pour les personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme. Alain Coq veut en finir, vous l'avez entendu, au plus vite avec la vie.
Arrivé à un stade, il y a le supportable et l'insupportable. Moi, pendant 34 ans, j'ai dépassé ma maladie. Maintenant, je veux m'endormir et ne plus souffrir.
Et selon un sondage IFOP, 89% des Français sont favorables à la légalisation de l'euthanasie. Alors, faut-il modifier la loi ? Avec nous, dans un instant, Jonathan Denis, secrétaire général de l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, et Pascale Morinière, médecin et présidente des associations familiales catholiques.
C'est terrible d'ailleurs d'entendre Alain Coq, parce que ça nous renvoie à notre propre vie, à notre propre chance, parfois, d'être vivant et d'être en bonne santé, et d'avoir forcément une pensée pour ceux qui ne le sont pas, parce qu'au-delà de tout, de l'argent, de l'intelligence, de tout ce qu'on peut dire, les vraies différences entre les uns et les autres, c'est la santé. C'est ceux qui ont la chance, bien sûr, d'être en bonne santé, et ceux, hélas, qui traversent la vie avec douleur. Le témoignage de ce qui se passe aujourd'hui à Charlie Hebdo, c'est là aussi terrible, des gens dont la vie a été percutée et qui ne sera jamais plus la même. Il est 13h58, à tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est 14h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Et Olivier Bois est avec nous.
Et d'abord, on l'a dit ces derniers jours, Marseille, qui fait face à une augmentation importante du nombre de cas de Covid, va devoir augmenter ses capacités hospitalières, notamment d'accueil dans les services de réanimation, qui sont actuellement arrivés presque à saturation. Pour les syndicats, c'est un véritable choc. Le groupe Auchan va supprimer près de 1500 postes pour se réorganiser. Les accueils des services après-vente, par exemple des hypermarchés, seraient supprimés, des postes également de managers. C'est un drame qui se joue à nouveau à Lesbos, en Grèce. Le gigantesque camp de réfugiés a été largement détruit par les flammes. Selon des médias locaux, l'incendie se serait déclenché après une rébellion de certains réfugiés qui refusaient des mesures d'isolement. Ce sont près de 12 500 demandeurs d'asile qui vivent là-bas. Berlin demande aux pays européens d'accueillir certains réfugiés. Et puis une bonne nouvelle pour les automobilistes en France, ils ne seront plus obligés de régler une amende de stationnement avant de pouvoir la contester. Les sages du Conseil constitutionnel ont recalé ce système en vigueur depuis un an et demi.
RTL, Tour de France 2020.
La 11e étape, c'est parti depuis un quart d'heure. Christophe Paco, vous nous promettez un sprint encore aujourd'hui ?
Il va être superbe ce sprint, Olivier, parce que c'est un sprint qui est en faux plat montant, donc ça va être un combat pour Costo, pour Peter Sagan ou Wout van Aert. Mais d'ici là, il va falloir rouler quand même, il reste 153 km. Un homme en tête, c'est le Français de la formation Groupama FDJ, Mathieu Ladagnous, qui est dans les Charentes-Maritimes, puisqu'on est parti de Châtellerault-Plage pour l'instant. Il va passer par les Deux-Sèvres avant d'arriver ici à Vienne, à Poitiers, vers 17h30. 2 minutes 30 d'avance tout à l'heure, 3 minutes maintenant, face au peloton maillot jaune, 3 minutes 20 d'avance pour Ladagnous devant les hommes forts.
Merci beaucoup Christophe Paco, tout à l'heure 14h30. La météo en deux mots, demain il fera beau sur quasiment tout le pays, ce sera un peu nuageux sur un quart sud-est de la France.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Je suis désolé, mais j'ai besoin de sérénité pour partir en paix. Ce sont les mots d'Alain Coq, atteint d'une maladie incurable et qui voulait se laisser mourir. Et finalement, il a accepté de bénéficier de soins palliatifs après plus de 3 jours sans traitement ni alimentation. Est-ce qu'il faut revenir sur la loi Leonetti ? Est-ce qu'il faut légaliser l'euthanasie ? C'est notre question. Et nous sommes avec Pascale Morinière. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes médecin, vous êtes présidente de l'Association des familles catholiques. Et Jonathan Denis, vous êtes secrétaire général de l'ADN. MD, l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Merci d'être avec nous. Madame Morinière, faut-il légaliser l'euthanasie ?
Moi, je crois que la première chose que nous devons dire, vu le petit reportage qu'il y a eu avant, c'est de saluer le courage de Monsieur Coq, qui non seulement a une vie difficile, mais très engagée en même temps. Il veut mourir dans la dignité, donc ça, et c'est le nom aussi de l'association qui est en face de moi, et ça je suis d'accord, et je pense que tout le monde est d'accord pour mourir dans la dignité. La question c'est, est-ce qu'on peut légiférer avec de l'émotion ? Je constate que ce sujet revient dans les médias, chaque fois qu'il y a un cas, et un cas dramatique. La loi ne peut pas être faite pour les cas particuliers. Voilà, et je ne crois pas non plus, et il faudrait que les Français se positionnent là-dessus. Est-ce que nous voulons une société où on supprime les personnes qui sont malades, les personnes qui sont handicapées, le problème en fait, ou est-ce que nous voulons une société solidaire des plus fragiles qui puisse s'occuper de chacun ? Moi, c'est la société que je souhaite, personnellement, les AFC aussi. Voilà, nous sommes actuellement dans une société de la performance et nous ne sommes pas, je crois, nous n'allons pas vers cette société des plus fragiles qui est possible avec les soins palliatifs, parce que dans l'équation que vous donnez, l'alternative que vous donnez, vous ne le citez pas, il y a quand même des soins palliatifs au milieu de tout ça, et je vois que M. Coq finalement a eu recours à ces soins palliatifs.
Les AFC, c'est l'association ou les associations familiales catholiques.
Oui.
Jonathan Denis vous répond.
Eh bien, je suis parfaitement d'accord avec madame. Je veux la même société qu'elle, qui est une société qui peut effectivement protéger et soit solidaire avec toutes celles et tous ceux qui en ont besoin. Mais être solidaire, ça veut dire accepter aussi le choix de chacun. Alors oui, madame le dit, il y a les soins palliatifs. Bien sûr, il y a les soins palliatifs. C'est une solution. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de soins. De soins palliatifs. Aujourd'hui, vous avez à peu près 1500 lits de soins palliatifs en France. Comment vous voulez qu'on fasse ? Aujourd'hui, vous avez 20% des personnes qui peuvent aller dans des soins palliatifs. Il faudra un accès universel aux soins palliatifs. Et puis, il faudrait pouvoir entendre toutes les volontés qui peuvent être exprimées différemment. Je ne suis pas un militant de l'euthanasie, je ne suis pas un militant du suicide assisté, je suis un militant du libre choix. Et si, pour une raison religieuse, philosophique, culturelle, vous souhaitez partir le plus tard possible, endurer des souffrances que vous acceptez parce que c'est votre dignité, on doit respecter votre choix. Par contre, si vous ne voulez plus de ces souffrances, si vous jugez que ce n'est plus possible et que votre dignité, elle se définit de cette manière-là, on doit également vous entendre et l'aide active à mourir, que ce soit le suicide assisté ou l'euthanasie, doit pouvoir vous être proposée.
Mais Madame Morinière, lorsqu'on entend Monsieur Denis, on a envie d'être d'accord avec lui, puisque lui, il part de la liberté individuelle de chacun. Et vous, lorsqu'on vous entend, vous dites, est-ce qu'on veut une société performante ou non performante, etc. C'est-à-dire que vous enlevez aux uns et aux autres la possibilité de choisir leur mort. Alors je voudrais savoir le fond d'argumentation. C'est parce que c'est une argumentation religieuse. Vous considérez que chacun n'est pas libre de sa mort ?
Moi, ce que je constate, et je le constate d'abord en tant que médecin, c'est que quand il y a une personne gravement malade, un enfant, un adulte, une vieille, une personne en fin de vie, gravement malade, il se met en place autour d'elle un réseau de solidarité, d'aide, et il y a des générosités incroyables qui s'expriment autour de cette personne.
C'est toute Vous ne répondez pas vraiment à ma question. J'ai l'impression qu'en fait, ces débats-là, il y a des faux-semblants dans les discours.
Si la solution est uniquement de supprimer la personne, eh bien, c'est de tout cela dont on se passe. Et donc, c'est une société de la solitude. Chacun vit sa vie, décide de sa
mort. J'ai envie de dire, ce n'est pas le problème. Moi, ce qui m'importe, c'est la décision personnelle. Monsieur Denis dit, si vous voulez mourir, pourquoi pas dans la souffrance, c'est votre choix. Mais si vous voulez abréger ces souffrances, d'ailleurs, vous parlez de fin de vie, et parfois, ces gens-là ne sont pas en fin de vie, donc les soins palliatifs ne peuvent pas répondre à cela. Si ces gens-là veulent arrêter de souffrir et pourquoi pas pratiquer l'euthanasie, vous leur empêchez la possibilité parce qu'il n'y a pas de loi. Et moi, je voudrais savoir le fondement de ça. Et vous ne répondez pas à cette question, Madame Morinière.
Si, je vous ai répondu. Je
n'ai pas eu ce sentiment.
Mais moi, je vous réponds avec le réel, la réalité que j'ai vue des dizaines et des dizaines de fois dans mon métier, sur la manière dont les choses se vivent dans les familles, parce que c'est souvent la famille qui porte ça à la fin de vie. Elle se vit de cette manière-là, avec beaucoup d'amour, de solidarité, d'entraide. Alors, bien sûr, et je le redis, les médias ressortent systématiquement le cas dramatique. Voilà. Par chance, monsieur Coq...
C'est une question de principe que je veux. Je veux que vous ayez une question de principe sur la situation que je décris, et vous ne me donnez pas forcément la réponse. Monsieur Denis, mais ce n'est pas à moi de faire le débat, c'est aussi à monsieur Denis d'engager la conversation avec vous.
Je vais entendre, parce que je pense savoir le fondement, et je le respecte.
Mais bien sûr, moi aussi, je le respecte. Bien sûr, je respecte la position de madame.
Qui est médicale et religieuse. Et voilà, j'entends madame qui me dit « je suis médecin », mais ce n'est pas le médecin qui est au-dessus de tout. Il faut aussi penser à la personne qui est dans le lit, à la personne qui peut souffrir, à la personne qui peut prendre la décision. Et quand vous dites, madame, que tous les cas d'accompagnement se passe bien, je suis désolé, mais je fais des tours de France chaque année avec la DMD, où on va à la rencontre dans des soins palliatifs, où on va à la rencontre auprès de familles qui souffrent, et ce ne sont pas des cas médiatiques. Et ça ne se passe pas toujours bien. Il faut accepter que, parfois, on ne peut pas soulager les souffrances. Vous employez un mot que je récuse totalement, qui est le mot « supprimer ». On n'est pas en train de parler de tuer quelqu'un. On est en train de parler d'un dernier acte de soin, peut-être d'un dernier acte d'amour, d'une décision personnelle.
En tout cas, c'est la sienne. Moi, voilà. Je retiens une chose, c'est la sienne. Mais on va laisser passer une page de publicité. C'est intéressant ce débat-là. Par exemple, moi, je connais une jeune femme qui s'appelle Charlotte Dornelas, qui vient très souvent sur des plateaux de télévision. Elle considère, et ça s'entend pour des raisons religieuses, parce que c'est une fervente catholique, qu'on ne choisit pas sa mort. Et ben moi, j'entends cet argument. Et elle a le droit de dire « ce n'est pas moi qui décide de ma mort et ce n'est pas non plus la société, c'est Dieu en l'occurrence ». J'entends cela. 14h09.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Vous connaissez le principe de notre émission, nous sommes avec Madame Morinière, qui est médecin et présidente des associations familiales catholiques, et Jonathan Denis, qui est secrétaire général de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Faut-il légaliser l'euthanasie? On est aussi avec les auditeurs. Nathalie.
Oui, bonjour.
Qui habite Charolles. Bonjour Nathalie, vous écoutez notre débat depuis quelques minutes. Qu'en avez-vous pensé?
Je trouve ça atterrant d'être soignant et de parler comme Madame Morinière. Je suis soignante depuis 30 ans. Je suis franco-suisse, donc j'ai pas mal exercé en Suisse, et où se pratique également l'assistana à l'euthanasie. Comme votre auditeur belge tout à l'heure, c'est à peu près les mêmes conditions. C'est très réglementé, c'est très accompagné. Et je n'arrive pas à concevoir
qu'on enlève cette dernière liberté à une personne. Quand on parle d'empathie et d'amour envers l'autre, en tant que soignant, je crois que c'est la base. C'est pas facile à faire en tant que soignant, hein. Et c'est pas facile à porter par la suite, mais je crois qu'on doit ça à l'autre, simplement.
Bah, Madame Morinière vous répond.
Oui, je vous réponds. J'ai prononcé le serment d'Hippocrate. Alors, sans doute pas vous, parce que vous êtes infirmière. Et dans ce serment, eh bien, depuis...
C'est un peu méprisant, ça, si vous me permettez, Madame Morinière, cette remarque. C'est un petit peu, vous voyez, c'est ce qu'on appelle un argument d'autorité.
Je travaille toujours bien en équipe avec toutes sortes de soignants. Et donc, ce n'est aucun caractère méprisant. C'est juste un constat. Le serment d'Hippocrate, il n'y a que les médecins qui le prononcent.
Oui, non, ça s'appelle un argument d'autorité. Ce que vous dites à cette dame, c'est moi, je suis médecin et vous êtes infirmière.
Est-ce que, mais c'est vous qui avez un problème avec ça, parce que dans
non, c'est ce que j'ai traduit.
C'est pas comme ça qu'on constate les choses, qu'on vit les choses. On les vit en étant à égalité avec chacun sa spécialité. Je constate juste que j'ai prononcé un serment qui n'a pas été prononcé par une personne du voilà. Et donc dans le serment.
J'ai prononcé un serment également.
Ah oui, alors écoutez...
Ensuite, c'est devant le préfet, mais ça,
ah oui,
ça revient
d'accord.
à peu près à la même chose.
Ah oui, d'accord.
Mais peu importe, parce que c'est pas le débat. Le débat, c'est le fond qui m'intéresse. C'est le fond, Madame Morinière.
Oui.
Répondez sur le fond à Nathalie.
Je pourrais le faire, monsieur Pro, mais sinon ça va être difficile.
Je vous en prie.
Eh bien, ce que je veux dire, c'est que dans ce serment, on s'engage à ne pas tuer. Voilà, dans quelles que soient les circonstances. Et donc, c'est pas seulement une question religieuse, comme vous essayez de le faire croire et passer. C'est pas du tout seulement une question religieuse. Il y a plein de gens qui sont pas catholiques et qui ont la même position que moi. C'est une question simplement de respect de la vie de chaque patient qui nous est confié. Et c'est une question de confiance. Vous savez que les frontaliers près de la en Belgique, près de la frontière, et quand ils ont des malades, ils viennent se faire soigner en France. Pourquoi ? Parce que la confiance dans le corps médical belge a été très éprouvée, parce que maintenant, on peut euthanasier des déments, on peut euthanasier des enfants, et la loi qui, en fait, quand on ouvre l'euthanasie, en fait, on ouvre une vanne. L'interdit de tuer, il est dans toutes les sociétés. Dès qu'on lève cet interdit, tout glisse. Donc la loi belge, elle a évolué par cliquets successifs pour les enfants, pour les déments. La liberté de conscience des médecins a été, en mars dernier, c'est très récent, a été encore restreinte. Et donc la confiance médecin-malade, qui est la seule chose solide sur laquelle on puisse se fonder pour soigner nos patients, elle est complètement... annihilée. Voilà, donc c'est ça que je veux dire. C'est quand je vous dis, c'est parce que je suis médecin que je vous dis ça, c'est parce que cette confiance-là, mes patients, ils peuvent savoir que quoi qu'il arrive, je les défendrai jusqu'au bout. Hein, et ça, c'est quelque chose d'essentiel et de précieux.
Bah, voilà. En tout cas, on peut vous répondre, parce que là, vous êtes sur le fond de l'argumentation, pour le coup.
Et l'autre intervenant était d'accord avec moi, les soins palliatifs sont à développer. Les soins palliatifs, c'est-à-dire soigner...
Monsieur Denis va vous répondre, mais là, pour le coup, vous êtes sur le fond de l'argumentation, donc on peut la développer, cette argumentation.
Alors, on peut la développer, mais alors, j'aime la mesure de Mme Morinière, parce qu'on a l'impression qu'en Belgique, c'est devenu tout et n'importe quoi. Mais Mme Morinière, je suis désolé, aujourd'hui, vous avez des Français qui quittent la France pour justement pouvoir mourir comme ils l'ont souhaité. J'ai pas connu beaucoup de Belges qui faisaient l'inverse et qui venaient en France pour qu'on puisse leur apporter ce dernier acte de soins qu'ils demandent. Les médecins belges doivent être respectés, il faut arrêter de mentir un petit peu sur la Belgique. Vous parlez des euthanasies de mineurs, mais croyez-vous vraiment qu'il y a eu des centaines d'euthanasies de mineurs ? Vous savez très bien combien il y a eu de cas, vous savez très bien que tout est légiféré, il faut pas rentrer dans ce débat qui finalement n'apporte rien et devient ridicule parce qu'on extrapole des choses qui ne sont pas réelles. Aujourd'hui en France, et on ne vous le demandera pas, les médecins doivent pouvoir être respectés dans leur clause de conscience. Et madame, on ne vous demandera pas demain, si vous ne le souhaitez pas, de pouvoir pratiquer une euthanasie à la demande d'une personne. Vous devez être respecté aussi là-dedans. Maintenant, il faut bien comprendre, et ce n'est pas que le médecin, mais les Belges ont su faire une loi parfaite, et vous ne pouvez pas me renvoyer simplement sur les soins palliatifs. Aujourd'hui, la moitié des euthanasies en Belgique se font dans des unités de soins palliatifs. Aujourd'hui, on veut nous opposer les soins palliatifs avec l'euthanasie ou le suicide assisté. Les choses ne doivent pas être opposées. Il faut une loi complète permettant l'accès universel aux soins palliatifs. Je ne pense pas, madame, que vous vous battiez beaucoup pour cet accès universel. Je le fais avec la DMD. On réclame un plan. On espère que le gouvernement le fera. On veut également que chacun puisse bénéficier, s'il le souhaite, d'une aide active à mourir. Et il faut que ce soit complet, et les Belges l'ont fait en 2002. Et tout à l'heure, Monsieur Prou, vous parliez avec un auditeur de la loi pour le mariage pour tous. C'était en 2003 en Belgique. Rendez-vous compte la différence qui existe entre ces pays-là. Les Pays-Bas l'ont fait, l'Espagne, le Portugal, les États-Unis, enfin certains États, peut-être demain l'Italie. Enfin, on va être entouré de pays qui pourront le pratiquer. Les Français continueront à fuir leur pays pour pouvoir mourir dans ce qu'ils appellent leur dignité, et nous on ne devrait pas avancer et toujours écouter un corps médical qui nous dit tout va bien.
14h17, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Alors on a eu Nathalie qui était une auditrice qui était plutôt plutôt favorable à l'euthanasie. Elle est toujours là, Nathalie. Et là, on va avoir Mathieu qui est plutôt contre l'euthanasie. C'est bien cela, Mathieu ?
Oui, bonjour, bonjour messieurs,
donc
bonjour madame.
Vous êtes plutôt proche de madame Morinière, Mathieu.
Voilà, alors le problème du débat, c'est faut faire attention à pas toujours être binaire en disant on est pour, on est contre, parce que on est tout de suite à afficher. Voilà. Donc déjà, voilà, je voulais dire un petit peu mon expérience professionnelle, parce que je suis sapeur-pompier. Voilà, donc je suis en bas de l'échelle, on va dire, médicale, hein, on parle pas de l'incendie. Et donc en fait, nous, par exemple, on est amené à faire deux choses. On peut faire une réanimation cardiaque sur une personne qui est en arrêt depuis un quart d'heure, qui a 90 ans, qui est atteinte d'une grande maladie, et on nous demande de faire cette chose. Et on nous demande aussi d'une personne de 30 ans qui veut sauter de la fenêtre en toute conscience, d'aller la secourir. Voilà, donc moi, la première chose, en fait, c'est-à-dire que l'arrêt réanimatoire sur la personne âgée, ça me fait bizarre, je vous avoue, parce que je vois pas vraiment l'intérêt. Et pour moi, on passe dans l'acharnement thérapeutique. En revanche, la personne qu'il faut aller sauver dans le balcon, moi, je continuerai à aller la sauver. Et donc, je voulais demander à monsieur de l'AMD s'il fallait changer nos procédures pompiers et encadrer la personne pour qu'elle puisse sauter sans que les autres soient en danger.
Alors, je pense pas être bien placé pour.
Oui, parce que c'est encore autre chose. C'est pas l'euthanasie, vous voyez. C'est ça qui est compliqué. J'entends, Mathieu, le sujet, mais c'est pas exactement dans la cible quand même de gens qui arrivent. En fait, c'est pas un suicide. On parle pas d'un suicide pour des raisons psychologiques ou d'un mal-être ou d'une vie qui va mal. On parle de gens qui ont parfois été en bonne santé, quoi, qui ont une vitalité très forte, qui ont aimé au contraire la vie, et puis qui n'ont pas envie de sombrer dans ce qu'ils considèrent eux. C'est toujours pareil, ce qu'ils considèrent eux comme une mort qui ne leur convient pas. Je vais remercier Madame Morinière de toute façon. Ce que je ne saisis pas, Madame Morinière, et je vous ai posé plusieurs fois la question, c'est que au fond, il y avait ça pour le mariage pour tous également dans l'argumentation. Qu'est-ce que ça vous enlève que des gens choisissent leur mort, puisque ça ne vous concerne pas vous. Vous avez le droit de mourir comme vous voulez.
Mais moi, j'ai une vue différente de la société par rapport à vous. C'est-à-dire que je pense que nous sommes tous solidaires et qu'il y a un bien commun à nous tous. Et la façon dont on prend soin les uns des autres me concerne et devrait vous concerner. C'est dommage qu'en tant que journaliste, vous traitez de l'information. Ça ne vous semble pas plus
évident. Mais moi, je prends soin des gens parce que je les écoute. Je les écoute, figurez-vous. Et quand ils me disent « je veux mourir comme ça », je considère que leur parole vaut de l'or. Et vous les écoutez peut-être moins, puisque vous considérez que c'est vous qui savez ce qui est le mieux pour eux.
On ne peut pas mener son chemin tout seul sans s'occuper des autres, les uns des autres.
Mais vous avez raison. Mais sur certains. Mais vous pourriez aussi choisir leur mari ou leur femme au nom de la société. Vous pourriez dire c'est très bien pour vous de choisir votre futur compagnon. Moi, je les écoute.
Alors, je voudrais vous dire autre chose aussi que vous n'avez pas abordé, c'est qu'il y a eu une loi en 2016 qui s'appelle la loi Claeys-Leonetti, qui a donné un nouveau cadre avec les directives anticipées, qui permet d'avoir une sédation profonde continue jusqu'au décès. Voilà. Cette loi.
Réponse de Monsieur Denis.
Non. Cette loi, elle est surtout très méconnue. Il y a eu l'inspection de la santé en a fait une évaluation un an plus tard. Elle est très méconnue par les soignants et il est nécessaire qu'elle soit mieux connue pour mieux encadrer. des situations comme celle de Monsieur Coq pour revenir à lui.
Eh ben merci en tout cas. Comme c'est quasiment terminé, je remercie donc Madame Morinière. Je vous précise que vous êtes présidente des associations familiales catholiques. Je vous précise que je suis catholique. Voyez-vous, Madame Morinière, que j'ai été élevée dans les églises, dans les écoles, dans les écoles catholiques, et que j'ai pas le même point de vue que vous là-dessus.
Pareil, heureusement, c'est la
Okay, vous voyez, on peut être catholique et pas exactement sur le point de vue de la présidente des associations familiales catholiques. Merci Monsieur Denis.
Merci à vous.
Hein, et c'est l'ami Tessier qui va trancher désormais.
La réponse au débat, faut-il légaliser l'euthanasie? Eh bien, vous le souhaitez à 77%.
Ben oui, je pense. En plus, il y a un consensus aujourd'hui sur ce débat-là.
Il y a un consensus de tout le monde, peu importe d'ailleurs les partis politiques, les religions, et même le corps médical qui est favorable majoritairement. Donc oui, il y a un vrai consensus. Vous l'avez dit, 96% des Français dans tous les sondages, c'est à plus de 90%. Maintenant, il faut l'encadrer, il faut l'expliquer et comprendre qu'on n'enlève rien à personne.
C'était un sujet grave, lourd, sombre. Il est 14h25, je suis heureux parce que hier, figurez-vous que Flavie Flamand ne voulait pas me voir. Elle respectait les gestes barrières et elle s'était installée dans un studio à côté. Et aujourd'hui, pour une raison que j'ignore, elle est avec nous.
C'est votre anniversaire en même temps.
Mais ah, bon, c'est sûr. À tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole.